à vous. Nous recevons ce soir une frondeuse et une batailleuse, une sorte de guerrière qui choisit de mettre en scène La fosse suivante de Marivaux au Théâtre Nanterre à Mandier parce qu'elle pense que cette pièce nous parle vraiment de ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. La fosse suivante ou Le fourbe puni est un texte sans véritable happy end, une plongée dans la duplicité, l'avidité et l'hypocrisie dont sont capables les hommes et femmes entre eux lorsqu'à la pureté du désir se mêle l'envie de richesse. Comme souvent chez Marivaux, il y a du travestissement, comme toujours avec lui. On entend une langue qui s'emploie à troubler ce qu'on croit être l'évidence. Il n'est pas possible d'être paresseux lorsqu'on met en scène une telle pièce. Pas possible de se reposer sur un savoir-faire ou de s'appuyer sur des seuls effets de séduction. Nadia von der Heyden, notre invitée ce soir, a été de ce point de vue à bonne école. C'est auprès de Didier-Georges Gabilly, un auteur-metteur en scène radical qu'elle s'est formée. Avec elle ce soir, nous observons la trajectoire d'une actrice qui n'a pas du tout envie de se reposer au théâtre. Et on ouvre ces changements de décor par une autre guerrière, c'est elle qui l'a voulu. Il s'agit de Sarah Bernard, une très très vieille archive Nadia von der Heyden, puisqu'elle jouait dans Les Glons de Rostand.
Pourquoi rentrez-vous tout d'un coup en silence vers moi? Dieu, vous voulez trier quelque chose, il me semble. Pourquoi retournez-vous dans l'aile tout ensemble? Pourquoi vous ouvrez-vous, bouche pleine d'horreur? Quoi, allez-vous crier? Quoi?
Ah, vous nous renvoyez d'emblée très très loin en arrière dans le temps, Nadia von der Heyden. Elle date la pièce a été créée en 1900. Je ne sais pas si l'archive INA qu'on vient d'entendre et qui grésille fortement date de cette époque-là, mais elle n'est pas récente. Pourquoi vous avez voulu entendre Sarah Bernard dans Les Glons, Nadia von der Heyden?
D'abord parce que c'est une des femmes actrices qui a aussi fait... Beaucoup, justement, pour qu'on parle des femmes et des actrices aussi comme endroit de force, de construction, de pensée, et pas simplement d'objet. C'est pas la seule, loin de là, mais... Et puis qu'il y a une chose sur la langue que je trouve passionnante, mais même à réentendre aujourd'hui, c'est-à-dire... Même avec le côté un peu suranné, daté, etc., si on entend l'énergie qu'il y a derrière à manger du mot, on apprend à entendre encore, même si on enlève les... Oui, des choses qui pourraient... Je ne suis pas sûre que si on retravaillait comme ça maintenant, alors avec, évidemment sans le grésillement,
oui.
Si, ce que ça ferait, ce serait intéressant de voir.
Vous croyez qu'on pourrait encore tenter une expérience pareille sur un plateau de théâtre et faire déclamer une actrice de la manière dont Sarah Bernard déclamait?
Mais justement, moi j'entends là qu'il y a des moments où ce n'est pas de la déclamation.
Tu peux quand même.
Non, mais c'est de la déclamation parce que c'est comme on entendait le vers à l'époque. Mais sur une langue versifiée, par exemple... Je pense à des textes comme ceux de Garnier ou d'Alexandrin Baroque. Ou... Ce ne serait forcément pas ça, évidemment. Mais d'aller dans un chant, dans une puissance respiratoire comme ça. Je pense qu'en plus, il y a des gens qui font un travail qui est loin d'être ça, mais qui pourrait faire écho.
Il paraît que les acteurs qui passent par Claudel, par exemple, apprennent à respirer le vers claudélien. Donc il y a des auteurs qui aussi forment d'une certaine manière la gymnastique de l'acteur et du comédien.
Il y a des écritures qui sont plus ou moins respiratoires. Ouais. Claudel, évidemment, et moi je dirais Tarkos aujourd'hui.
Christophe Tarkos.
Oui, ça dépend comment on le prend. Mais si on regarde, ou Novarina, évidemment, c'est des langues, faut y aller, quoi. Donc il faut respirer, il faut mâcher, il faut... Parler devient une chose très physique.
Parler à ce moment-là, c'est différent de la façon dont on prend la parole, comme ici à la radio ce soir?
C'est pas de la conversation.
C'est autre chose.
Oui. C'est-à-dire que ça écrit en même temps que ça parle. D'abord, ça doit aller chercher un rapport à la respiration, à une chose très physique, et qui inscrit dans l'espace. Alors que si je vous parle comme ça, je suis beaucoup plus... ça sort moins de moi-même.
Ouais. C'est pas exactement pareil.
Pas tout à fait la même chose.
Alors Sarah Bernard, puisque vous avez souhaité l'entendre dans cette émission, n'a pas que joué un rôle d'homme dans Les Glons, elle a joué aussi d'autres, dans d'autres pièces, notamment Hamlet. Et elle disait que c'est pas tant qu'elle préférait les rôles d'hommes, mais ce qu'elle préférait, disait-elle, c'était les cerveaux d'hommes. Qu'en pensez-vous, Nadia von der Heyden?
Je le croiserais avec autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il y a une chose qui est... Tout masque amène une liberté. Alors évidemment, jouer une femme pour un homme ou jouer un homme pour une femme, c'est une forme de masque. Voilà. Donc on masque un endroit qui laisse entendre quelque chose de soi qui, autrement que quand on y va. Là, on peut recroiser Maïvo. Est-ce qu'un visage vrai, ça existe? Est-ce qu'un portrait vrai, ça existe? Est-ce qu'il y aurait un endroit naturel où on serait nous? Où ça serait... Alors, qu'est-ce que c'est que nous? Ça, c'est carrément une phrase du texte. Est-ce que c'est le visage? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est le statut social? Est-ce que c'est le mouvement qu'on a, le désir qu'on a, etc.? Est-ce que c'est ce qu'on essaie de représenter pour les autres? Est-ce que c'est ce que les autres pensent de ce qu'on est, qu'on essaie de savoir pour savoir qui on est?
Ouh là là, ça se voit que vous êtes dans du mari, vous, en ce moment.
Ouais, c'est... Et du coup, l'autre endroit, quand elle parle du cerveau masculin, ouais. On pourrait le dire autrement. Et qui, je pense, est une question qui intéresse les hommes et beaucoup les femmes. Et que c'est aussi par la question que les femmes se sont posées elles-mêmes que... Il y a une question commune qui a avancé. Je pense en plus à son époque, ce qu'on attend d'une femme comme forme de féminité et donc de contrainte sociale et donc de comportement et donc de physique et donc de beauté ou de pas beauté, etc. est totalement déplacée et on n'attend pas la même chose d'elle si elle joue un homme, donc elle a la paix. Donc elle peut avoir l'impression de faire entendre une pensée que sinon on lui demande d'abord de faire voir autre chose. Voilà. Mais cette question, elle reste, elle a quand même énormément évolué. Là, je pense qu'il y a encore de quoi faire. Peut-être qu'en ce moment, une des questions qui passe par les interrogations sur le genre, qui n'est pas l'ensemble des caricatures qu'on entend, mais qui est justement un ensemble de réseaux sur les modes sociaux de représentation, les modes de sexualité, les modes de... Voilà, on se découvre peut-être plus large... De nouveau, que ce qu'on a pensé en particulier au XIXe siècle. Alors là, pour Sarah Bernhardt, c'est sûr, c'est évident. En tout cas, de façon ouverte.
Quand on monte la fosse suivante de Marivaux, on monte une pièce où, comme d'habitude, je le disais en ouverture de cette émission, Marivaux va jouer à troubler les genres. Donc, une femme se fait passer pour un homme. Vous-même, d'ailleurs, Nadia von der Heyden, vous jouez le rôle d'un homme dans la pièce, puisque vous jouez le rôle de Frontin, un valet. Il y a de la jubilation à porter les vêtements d'un homme, à adopter le masque de l'homme sur le plateau de théâtre, quand on est une femme, et inversement, d'ailleurs.
Avec le travail qu'on fait, mais alors, c'est peut-être ça qui rejoint l'histoire du cerveau de Sarah Bernhardt. Je ne sais pas si on travaille réellement sur le masculin. Parce qu'elle n'essaye pas de changer sa voix, par exemple, Laure, ni moi. J'essaye pas de ne pas avoir le corps que j'ai. Et aussi parce que Trivelin, à ce moment-là, est habillée en femme. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression plus d'être dans une question sur de l'être. Et pas sur de... Voilà, c'est à quelqu'un qui est là. Pas une femme avec derrière tout ce qui se colle à une femme ou un homme et tout ce qui se colle. Alors un homme, un valet, avec tout ce qui se colle comme cliché, a priori, sur les classes sociales, parce qu'on fait pareil avec les classes sociales. Alors une comtesse, ça serait quoi? Un valet, ça serait déjà quelque chose que ne serait pas un maître comme Léliot? Alors socialement, oui. Est-ce que ça identifie quelque chose de la personne elle-même? Sûrement. C'est l'élection qu'on se pose sur entre voilà. Éducation, pas éducation, nature.
Culture. Quand Marivaux écrit la pièce, on est en 1724, je crois, c'est une mauvaise année pour lui. Ah, il a perdu sa femme. Oui. Quand les pièces de Marivaux sont représentées au 18e, que provoque chez le public le travestissement en scène, Nadia von der Heyden?
Eh bien, je veux dire, j'en sais rien.
Vous ne savez pas?
Précisément là-dessus, non. Sauf que c'est une figure quand même de rhétorique théâtrale très ancienne. D'abord parce qu'il y a des époques où il n'y a pas de femmes qui jouent. Donc, de toute façon, les travestissements sont dans les deux sens. C'est plutôt qu'il n'y a pas de femmes, donc il n'y a que des hommes qui jouent tout. Que dans le théâtre masqué, parce qu'ils croisent quand même aussi cette troupe italienne qui est à ce moment-là en train d'essayer de revisiter et de redéfricher la comédia et les classiques italiens, on va dire. Donc je pense que ça déplace beaucoup la question. C'est un code quand même assez...
Admis.
Ça fait partie des codes, en tout cas. Mmh.
Ouais. Alors, sur la scène de théâtre, le travestissement, il est autorisé, mais quand ça se passe dans la vie réelle, c'est autre chose. On en a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, hein, je crois, à l'Eurovision. On va écouter. Conchita Wurst. Oui.
Walking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, but you're my flame.
Conchita Wurst, donc, travesti autrichien qui a gagné le concours de l'Eurovision. De son vrai nom, Tom Neuwirth, c'est un chanteur de 25 ans, ce qui a soulevé la colère visiblement de certains Russes qui disent qu'ils veulent créer leur propre Eurovision. C'est intéressant quand même de constater que forcément toujours le théâtre... Lui, il n'est pas embarrassé par ce genre de considération. Et heureusement d'ailleurs, Gabon Deraïdon.
Je pense qu'il y a des époques et des pays où c'est pas assez clair, hein, justement. Mmh. En Russie, je sais pas si on a la même liberté que partout dans le monde. Il y a quand même des censures plus ou moins explicites. Mais il y en a. Après, je pense qu'en Europe... Enfin, je dirais, le théâtre fait ça, mais finalement pas que. Parce que si je repense toujours à Sarah Bernhardt, au début du XXe siècle, par exemple, la société admet, alors pas dans n'importe quelle catégorie sociale, mais il y a des choses... Autant l'homosexualité, par exemple, pas admise dans la vie, mais les travestis femmes, si. Mm. Il y a toute une phase dans les années folles où il y a des femmes habillées en... Elles sont femmes, les cheveux lâchés, éventuellement, ou coupés, ou rien. Après, est-ce que c'est le plateau? Parce que finalement... C'est quand même le travail aussi de l'art, là, je dirais. C'est plus, pas simplement le théâtre, mais si on pense à Georges Sand, évidemment, à un autre moment, d'aller visiter d'autres territoires et des zones intermédiaires dont on sait bien par ailleurs qu'elles correspondent à ce qui peut être du ressenti, même si c'est socialement pas admis suivant les époques, etc.
Vous montez cette pièce de Marivaux comme si il s'agissait d'une fête qui va être troublée au fond par la révélation de ce qui anime les hommes et les femmes, c'est-à-dire que c'est pas tant l'amour qui les anime que, en l'occurrence dans cette pièce, le désir d'accroître ses richesses. Et tout ça n'est affaire que de mensonges, de déloyauté, de tromperies. Et on a l'impression que, particulièrement dans cette pièce de Marivaux, La fausse suivante, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, au fond, Nadia von der Heyden, qu'ils se valent tous hein, dans l'ignominie. Oui, qu'on parle du chevalier, qu'on parle de l'hélio, de la comtesse, enfin...
Chez les maîtres, en tout cas, parce que les deux qu'on peut sauver, c'est les deux valets. Mm. C'est Arlequin et Trivelin. Non, ils ne sont pas à rattraper, mais en même temps, c'est quand même une pièce révolutionnaire. Donc, si on n'essaie pas de poser un jugement sur ce que sont les gens, ou d'abord qu'on ne sait pas, puisque c'est des personnages, même, ou c'est des fictions, plutôt. Alors, il y a comme quelque chose qui est en train de bouger dans la société où les repères sont pas les mêmes. Voilà. Donc, une jeune fille de la ville arrive. C'est, on peut se dire, on peut projeter assez vite hein, que c'est une jeune fille de la bourgeoisie naissante qui se retrouve avec deux aristocrates en perte de vitesse socialement, qui ont le titre, les terres, mais pas l'argent. Elle a l'argent, pas les titres. Et puis là aussi, littérairement, il règle une autre chose que, parce que c'est plus Molière, même s'il l'a lu, etc. Donc il n'y a plus de parents. Il n'y a pas de zone tutélaire à défier en disant la société, à ce moment-là, au 18e, change. Donc elle arrive en disant mais c'est mon problème. Et je vais le résoudre moi. Ça, c'est une première chose. Mais du coup, là-dedans, il y a aussi une perte de repères qui fait que c'est pas simplement des. C'est aussi des gens prêts à tout. C'est-à-dire, c'est aussi des gens... Elle peut être terrifiante. Alors, je trouve que sa dernière phrase dans la pièce, c'est juste immonde.
Quelle dernière phrase, donc?
Ah ben, elle finit... Elle va vraiment jusqu'au bout de son truc. Elle défait l'hélio. Puis, on se rend compte que c'est une femme. Donc, la comtesse est effondrée.
Parce que la comtesse, entre-temps, est tombée amoureuse d'elle. La prenant pour un homme.
Entre-temps, veut même l'épouser. Et elle s'en sort en disant, eh ben, ça vous apprendra. Vous étiez en train de quitter les lieux, pas vraiment parce que vous l'aimiez plus, mais pour une histoire de, pour, voilà, un peu une histoire un peu capricieuse, une bagatelle. Eh ben, la prochaine fois, vous serez plus conséquente, c'est tout. Voilà. Et il y a beaucoup d'amour de perdu, mais il y a de l'argent de garder, soyons réalistes. Voilà, maintenant, il va y avoir une fête, vous n'avez qu'à rester là, c'est toujours ça de prix. Ça s'arrête là-dessus, c'est toujours ça de prix. Si on voulait, alors, on peut le dire joliment, c'est toujours ça de prix, voilà, mais si on, si on regarde la phrase, c'est, elle vient de remuer des gens dans tous les sens, de les... Après, moi, ce qu'on essaie de se raconter aussi là-dessus, c'est parce que il y a l'histoire des devenirs, moi, l'autre sous-texte qui n'est pas simplement une catastrophe, et c'est ça où ça me rappelait aussi c'est une des choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Il y a une chose pré-révolutionnaire donc, là-dedans, mais qui n'est pas la conscience de vouloir. C'est comme la première scène de la pièce, c'est ce que prend Beaumarchais pour écrire le monologue de Marivaux. Il prend le texte de Trivelin, voilà. Mais des années plus tard, donc pas du tout dans le même cadre. Mais toute l'idée de « c'est un homme comme moi », de bon, ça démarre sur « j'essaye de trouver un état fixe que je peux pas avoir ». Il est quand même dans de la bricole régulière, où il est obligé de passer de... Voilà, on pourra parler flexibilité. ça me fait rire en ce moment, parce que c'est quand même ce qu'on nous propose aussi de plus en plus. Là-dedans, quand on rencontre, il y a des fois on a des rencontres qui basculent nos vies. Et c'est des moments où tout en l'intérieur de soi s'ouvre. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas tant une question sur le genre qu'une question sur je suis qui, finalement. Est-ce que je peux pas devenir encore autre chose de moi-même? Qu'est-ce qui peut m'arriver qui fasse que je découvre des choses? Et ça, c'est souvent l'autre qui fait ça. Il y a des situations, mais il y a c'est des quelqu'un, c'est des gens. Et je pense que là, à cause de... cet endroit un peu emblématique de ce chevalier, mais qui n'est pas simplement le fait qu'elle soit un travesti, c'est qu'elle arrive dans un désir pour elle-même monumental. Et quand on rencontre des gens qui sont dans ces mouvements de désir-là, c'est communicatif, c'est une épidémie. Ou ça donne envie. Et je pense qu'à un moment, sortant d'une fête, etc., ils ont une envie dingue de muter. Et qu'en plus, la société est en train de le faire, mais sauf qu'ils ne savent pas que quoi, qu'est-ce, dans quel sens, pourquoi. Et donc c'est pas que une espèce de réquisitoire un peu ordonné des uns ou des autres, c'est en même temps, alors si on pense au sous-titre de Beaumarchais qui est La Folle Journée, ça serait une espèce de Folle Journée, ou de qui folle a rien nuit. À voir. Mmh. Ouais, voilà.
Vous, il vous est arrivé Marivaux, hein, Nadia, ouais. Van der Heijden.
Ouais, je crois. Oui. J'aimais déjà beaucoup avant, mais en travaillant dessus. Puis avant, j'ai travaillé avec des élèves à l'ERAC sur la dispute. Et c'est un régal, c'est une gourmandise, je sais pas comment dire. Ça me rend un peu dingue, ouais, je crois. C'est pas la seule chose, mais ça m'a rendu un peu folle, je pense.
J'ai lu ou entendu une interview de vous où vous dites que de jeunes lycéens sont venus voir le spectacle qui a été créé d'ailleurs il y a 2 ans, hein, trois ans, à Chambéry.
Ouais.
Et qu'ils étaient totalement fascinés par ce que disait Marivaux, que ça les concernait réellement, ce qui se passait sur le plateau.
Oui, et depuis, parce que là, ça fait un moment qu'on tourne quand même, où il y a eu beaucoup de gens, j'aime pas dire les scolaires, mais donc des jeunes gens.
Des jeunes gens.
Des jeunes gens. Et oui, ça les frappe, parce que mais il y a une chose de, je pense, hein, d'une envie de liberté ou d'une question avec chercher qu'est-ce que ça serait être heureux. Alors, c'est pour ça que j'ai à un moment, on parlait de Chronique d'un été, le film de Jean Rouch et Edgar Morin. Il commence le film sur un radio-trottoir qui dit ça. Il pose des questions aux gens dans la rue en disant, est-ce que vous êtes heureux? Et comment vous vous débrouillez avec la vie? Pas dans la vie. Ben, je trouve que la pièce est un peu une chose où on regarde ça. Comment on se débrouille avec ce qu'on peut appeler quand même un foutoir. C'est pas toujours simple, quoi. Mais ça peut être joyeux. Et ça peut être terrible en même temps que c'est joyeux. Voilà. C'est pas grave que ça soit terrible. S'il y a un minimum de respect. Si on veut pas faire de mal aux gens. Voilà. Ça, c'est quand même une limite claire.
On va passer par une autre voix que vous avez souhaité entendre, Nadia Van der Heijden, dans cette émission. C'est Isabelle Huppert qui lit Orlando de Virginia Woolf. Je pense que ça date de 1993, parce que la création du spectacle par Robert Wilson date de 1993.
Naissance, On se marie à 19 ans. Et à 30 ans, on a 15 ou 18 enfants. Les jumeaux
vous
abondent. Les phrases, secondes,
éveillées.
Les adjectifs se multiplient.
Vous.
Les poèmes se changent
vous
en épopées. Les encyclopédies surgissent comme des champignons. Des choux-fleurs géants
s'entassent
étage sur étage et finissent par rivaliser avec les dormes.
Regardez.
Les poules pondent des œufs sans arrêt. Il n'y a pas moyen d'arrêter l'humidité. Elle s'insinue dans l'encrier, comme elle s'insinue dans le bois. Les statues,
prenez
l'or surchargé de fleurons, les vêtements de veuve, les voiles nuptiaux.
Nadia von der Heyden, donc c'était Isabelle Huppert, lisant Orlando, dirigé par Bob Wilson. Inutile de dire que c'est pas du tout comme ça que le Marivaux se profère sur le plateau du théâtre Nanterre à Mondier. Hein.
Ben non, parce que c'est du Marivaux.
Oui.
C'est pas du Virginia Woolf.
Oui, c'est pas puis Wilson, c'est pas, et puis c'est pas la même
Bob
chose.
Bob Wilson, et puis, y a pas, et puis personne n'est Isabelle Huppert. Donc. Enfin, il y avait tous des gens très bien, mais c'est juste tout à fait d'autres gens.
Mais alors pourquoi vous vouliez entendre Isabelle Huppert dans ce texte-là?
J'avoue que c'est pas tant Isabelle Huppert en fait que j'ai tout va bien, hein, mais que
Virginia Woolf.
Oui. De nouveau une écriture et l'écriture là d'une femme. On parlait de cerveau, ben voilà, là on n'est pas devant une actrice, on est devant le travail intellectuel et poétique de quelqu'un et qui a à voir aussi avec peut-être pas le genre, mais dans son écriture une façon de pouvoir circuler entre. Il y a ça. Et il y a comment se développent les phrases et repartent à l'intérieur dans autre chose. Il y a plusieurs écritures comme ça. Et ça, non, ça ne me fait pas forcément penser à Marivaux. Mais il y a ça chez Marivaux. Très, très, très différemment, évidemment. C'est des phrases à couder. Et on part avec une chose et ça fait quatre virages avant d'arriver à la fin de la phrase. Alors, pour finir sur ce qu'on a entendu là, c'est aussi un descriptif, pareil, de cadre, de code, de est-ce qu'on arrive à repérer déjà pour soi-même ce qui peut être des espèces, pas d'enfermement, mais quand même de
d'espaces qui nous limiteraient.
Oui, voilà.
Est-ce que vous avez l'impression, Nadia von der Heyden, que être une femme est une entrave à un désir de mise en scène ici en France? On tourne un petit peu en route autour de cette question depuis un petit moment, quand même.
Oui, non, mais en France, il n'y a jamais de... Tout est toujours possible. Après, on rend pas forcément les choses possibles, mais dans l'idée, tout est possible.
Mais est-ce que pour les femmes, on rend les choses un peu plus compliquées?
Je pense que ça va mieux, mais je pense que ça a été compliqué à un moment. Et ce n'est pas tant compliqué qu'on fasse de la mise en scène, mais que, par exemple, bah, de nouveau, quand on identifie une actrice ou une femme à quelque chose, c'est dans le social. Donc, c'est pas on veut bien... Mais ça fait quand même bizarre de parler à une femme d'autre chose que de séduction. Ou tiens, comment la séduire quand elle est pas que dans un mode où c'est formidable. Tu joues tellement bien. Donc mais c'est pas des vrais empêchements. Il y a aussi l'autre difficulté bête, hein, c'est que moi, je me souviens quand j'avais 18 ans, des exemples de femmes au plateau ou en littérature, etc. Il y en avait... Moi, j'ai dû chercher, quoi. Les auteurs que j'avais lus, comme c'était à l'école ou ailleurs, hein, c'était des hommes. Les philosophes que j'avais lus, c'était des hommes. Les peintres que je voyais, c'était des hommes. La musique que je pouvais écouter, c'était des hommes. Après, il a fallu chercher. Il y avait des trucs...
Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'elles n'existent pas, c'est qu'elles ne sont pas forcément mises en lumière et en valeur.
Oui. Et puis maintenant que quand même, les femmes se sont mises, y compris dans d'autres domaines de la société, hein, à travailler, je pense que pour les générations qui arrivent, c'est plus simple. Et puis pour les garçons aussi, ça bouge, donc ils vont forcément... Ça va travailler autrement, ça travaille déjà autrement. Donc voilà, là ça va suivre son chemin... tranquillement. Après, l'autre complication pour soi, c'est aussi de se dire, c'est pas parce que je suis une femme que... voilà, après, c'est plutôt l'endroit du travail qui est intéressant. Ça suffit pas de dire, je suis une femme, je vais faire des choses. pourquoi faire quelque chose plutôt que rien, quoi, je sais pas.
Mais vous avez eu, vous, des choix à faire, Nadia van der Heijden? Au départ, vous êtes actrice. Le désir de metteur en scène, soit il était là dès le départ, soit il est venu petit à petit. Mais est-ce qu'il vous a fallu choisir entre jouer, mettre en scène, jouer?
J'ai toujours aimé les deux. Mais parce qu'au départ, moi, je dessinais, je faisais de la danse, j'aimais la philo. Et ce qui regroupait le tout, c'était le théâtre. Et puis, effectivement, je rencontre Didier Gabilly à ce moment-là et que la rencontre est telle que, de toute façon, ça emporte le morceau, quoi, aussi. Mais j'adorais aussi regarder les gens. Donc, même jeune, je faisais répétitrice pour des gens qui n'ont pas... On en parlait avec Catherine Boguet, qui joue la comtesse... dans le Marivaux, il y avait une dimension pédagogique dans le travail de Didier qui, je pense, nourrissait ça aussi. Donc c'est venu petit à petit, aussi par la pédagogie, en travaillant dans des écoles avec des jeunes acteurs. J'avais un peu confiance dans le temps, en fait. Je ne me sentais pas pressée. Puis j'ai quand même travaillé d'abord avec Didier, après avec François Tanguy au Radeau, et après avec Jean-François, où on a...
Sivadier,
où on a... en quelque sorte, construit son travail, notre travail, etc. Donc c'était aussi où on participait, à côté. On avait fait un groupe dramaturgique de trois autour de Jean-François. Donc j'y travaillais, en fait, d'une certaine façon. Donc à un moment ou à un autre, si ça devait venir, ça allait venir. Du moment que je travaillais, voilà.
Et c'est venu. Donc quand je dis que vous êtes une guerrière, je pense que je ne suis pas complètement à côté de la plaque, Nadia van der Heijden. Mais Brigitte Salino, dans Le Monde, elle avait dit que vous étiez une pétroleuse.
Ouais, je crois que pétroleuse, c'est...
Vous préférez, vous
aimez guerrière, moins... je ne me sens pas très efficace en... Non, mais guerrière, quand il faut se battre, disons que je peux me battre avec les choses et je peux avoir l'énergie pour les défendre.
Merci beaucoup, Nadia van der Heijden, d'être venue nous voir. Je rappelle que... La fosse suivante, ou le fourbe puni de Marivaux dans votre mise en scène, se joue à Nanterre, aux Amandiers, jusqu'au 25 mai. Réécouter, podcaster cette émission à la page Changement de décor sur le site de France Culture. Geneviève Méric, Linda Simon, Philippe Mercher, Laurence Millet et Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 21h sur France Culture, bientôt la fiction, présentée par Blandine Masson. Bonsoir Blandine.